crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons un immense tableau, 4 mètres par 5 mètres, intitulé « La mort de Sardanapale » et réalisé par le grand peintre Eugène Delacroix en 1827. Ce tableau met en scène le personnage mythique de Sardanapale, inspiré d'Assurbanipal, le dernier grand roi de l'Empire assyrien. Lord Byron avait justement fait de ce héros oriental le protagoniste principal d'une pièce qu'il a publiée en 1821.
La clarté de ce grand bûcher funéraire de la royauté ne sera pas seulement une colonne de fumée et de flammes, un phare éphémère à l'horizon pour n'offrir ensuite qu'un monceau de cendres. Non. Non. Ce sera une leçon pour les siècles, pour les nations rebelles, pour les princes voluptueux. Le temps couvrira de l'oubli les annales de plus d'un peuple, les exploits de plus d'un héros. Il anéantira plus d'un empire, à l'instar de ce premier des empires. Mais il respectera mon dernier acte pour l'offrir comme un problème que peu oseront imiter, que nul n'osera mépriser. Et peut-être cet exemple détournera-t-il plus d'un roi d'imiter une vie qui m'a conduit à une telle fin. Lord Byron, Sardanapale, 1821.
Et comme cette histoire, le tableau est plus large que le regard. Les yeux cherchent à rassembler l'énergie de ces planètes qui tournent autour d'un soleil pâle dans un ciel rouge. Ce massacre, c'est en effet un cosmos. 7 groupes d'hommes, de femmes, d'esclaves, de concubines, d'eunuques et de chevaux se tordent, se tuent, se mêlent au milieu des orfèvreries et des tissus qui s'enchevêtrent. Chaque ensemble est une force centrifuge, un tourbillon qui s'emporte et gire dans l'orbe d'un astre indifférent. Au cœur de l'action, le souverain inébranlable, mollement étendu sur sa couche, gardé par des éléphants d'or à la tête appuyée sur son coude. Il contemple la destruction de son monde qui s'embrase et s'immole devant lui. Le dos de sa favorite qui s'abandonne à ses pieds, appuyé sur l'immense couche, offre au regardeur du tableau un plaisir que Sardanapale a refusé à ses conquérants. Le feu qui commence à dévorer le gigantesque bûcher que le souverain a élevé pour incendier ce qu'il aimait, allume dans notre esprit, dans notre œil, la possibilité d'une jouissance alors que nous devrions être consternés par ce drame. Cette excitation, ce désir que la somptueuse beauté de l'œuvre suscite est inacceptable. On aurait oublié, tant la volupté se confond là avec les spasmes de la mort d'un empire, on aurait oublié l'horreur de la scène pour nous livrer sans frein à la sensualité qu'elle suggère.
Bien des fois, mes rêves se sont remplis de formes magnifiques qui s'agitent dans ce vaste tableau, merveilleux lui-même, comme un rêve. Le Sardanapale revu, c'est la jeunesse retrouvée. À quelle distance en arrière nous rejette la contemplation de cette toile ? Charles Baudelaire, 1861.
On entendait effectivement Baudelaire qui aime tant les œuvres de Delacroix et qui, en dépit, parfois... d'un certain froid de la part du grand peintre à son égard, n'a cessé de l'aimer. Mais avant de parler du peintre et plus particulièrement de la mort de Sardanapale, ce chef-d'œuvre, je vous présente Dominique de Fonréau, que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui. Bonjour Dominique.
Bonjour Jean.
Merci d'être là. Vous êtes la directrice du musée national Eugène Delacroix, historienne de l'art fameuse, conservateur en chef au musée d'Orsay. Vous avez été pendant 6 ans, je crois, conservatrice au musée d'Orsay, auparavant, responsable de la collection de photographies. D'ailleurs, vous aviez fait un très beau livre sur les rapports entre photographie et peinture à cette époque.
Je l'ai fait en 2012, donc c'était un peu plus tard. Qui s'appelle « Peinture et photographie, les enjeux d'une rencontre ».
Essentiel, à mon
Merci
avis.
Merci beaucoup.
Et vous enseignez à l'École du Louvre et à l'Institut de sciences politiques de Paris. Et vous êtes la commissaire de nombreuses expositions, dont Gustave Courbet, qui était extraordinaire. Et vous avez été commissaire avec Laurence Descartes et Édouard Papin, d'une exposition consacrée à Jean-Léon Gérôme, au musée d'Orsay, au Getty, à la Fondation Thyssen à Madrid, enfin un long tour. Et vous êtes maintenant installé dans ce ravissant musée de la Croix qui abrite des œuvres, mais pas l'esquisse de Sardanapale, je crois.
Non, pas l'esquisse de Sardanapale. Nous avons souvent présenté en dépôt, et elle est en ce moment la copie que Frédéric Villot a fait sous la direction de la Croix au moment où le tableau est enfin vendu dans les années 1840 au collectionneur Daniel Wilson.
Collectionneur américain, ça veut dire que le tableau, après avoir été présenté à un salon, vers quoi, 1827?
Il est présenté en 1827 et le tableau n'est vendu donc à Wilson, qui est anglais, enfin écossais et anglais et qui aussi vit en France, n'est vendu que dans les années 1840, donc assez tard en fait, après que le tableau ait été réalisé. Mais c'est la conséquence du scandale qu'avait suscité aussi le tableau quand il est présenté en 1827, parce que...
C'était Charles X à ce moment-là qui était le souverain?
C'était Charles X qui était le souverain, et Delacroix avait habitué à des coups d'éclat. C'est un tout jeune homme, on est en 1827, il est né en 98, donc il a 29 ans, c'est un tout jeune homme.
Qu'est-ce que c'était? Il y avait un coup d'éclat avant
Sardanapale? Il y a deux coups d'éclat, si on peut dire. Le premier, c'est celui, la première fois où il apparaît au salon, c'est la barque de Dante, en 1822.
Donc admirable.
Admirable œuvre. Ouais. Et puis le deuxième, c'est donc en 1824, avec les massacres de Kyo, mais qui déjà suscite un peu...
Alors les massacres de Kyo, c'est une question politique, mais les trois sont un peu liés à Byron,
oui,
ces trois chefs-d'œuvre, ou pas?
Alors, en fait, ils sont tous un peu liés à Byron. Alors, les massacres de Kyo et les Sardanapales de façon évidente, puisque les massacres, c'est l'évocation de la guerre d'indépendance de la Grèce, dans laquelle on le sait bien, Byron a participé puisqu'il meurt à Missolonghi. Et puis, le Sardanapale, c'est lié aussi à Byron, puisque c'est inspiré, entre autres, on aura l'occasion d'en parler, de la pièce de Byron. Mais le Dante est aussi, d'une certaine manière, un hommage byronien, puisque, même si évidemment pas Byron qui a écrit la Divine Comédie, ça va de soi, mais il est, comme Delacroix et comme beaucoup de gens de cette époque-là, très intéressé à nouveau par la figure de Dante. Donc c'est vrai que on perçoit dans les trois quelque chose d'intéressant, qui est un rapport à la fois à la littérature de ce temps-là, et notamment à Byron, mais aussi à quelque chose qui peut-être culmine avec le Sardanapale, et dont on peut avoir l'occasion de parler tout à l'heure, qui est que c'est l'intérêt à la fois à une culture ancienne qui revient vers l'Antiquité, puisque par exemple Dante, c'est aussi avec Virgile, donc c'est l'histoire romaine, les massacres de Kyo, ça se passe sur le terrain même de la Grèce. Sardanapale, c'est autour de ce qui est encore complètement fantasmé, toute la société assyrienne, mais qui est très fantasmée à l'époque de Delacroix. On est avant les découvertes, évidemment. Et c'est donc l'idée de quelque chose qui ressort de l'antique, mais en même temps d'un antique sauvage, d'un antique qui est un antique, finalement, d'une Grèce colorée, d'une Grèce sauvage, qui ensuite a été découverte, effectivement, et dont, d'une certaine manière, Delacroix a l'intuition.
Mais à ce moment-là, il y a une passion pour l'Antiquité. Le fondateur du Louvre y a été. Il y a le retour de Napoléon.
Il y a une vraie passion pour l'Antiquité, qui est une passion pour l'Antiquité, qui est à la fois une passion livresque qui existe, mais qui est pour la première fois une passion qui va pouvoir, même si Delacroix, lui, ne va pas en Grèce, mais beaucoup vont commencer à y aller. C'est-à-dire que ça se passe aussi par le rapport direct à cette antiquité. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, et ça va être le sujet bientôt d'une très belle exposition à Lens, au Louvre-Lens, sur l'histoire commence en Mésopotamie, ça va être aussi, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les découvertes archéologiques ont accompagné la création artistique, mais aussi sans doute combien les créations artistiques ont suscité ces découvertes archéologiques. Et c'est amusant de voir que Sardanapale, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est sans doute lié à Surbanipal, avec quelque chose qui est bien sûr très légendaire hein, et qui a été beaucoup réécrit. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que ça a sans doute aussi accompagné les découvertes qui se font ensuite, menées par Botta, et qui vont faire surgir les grandes découvertes à Ninive en 1846-1847.
Donc, ça, alors, pour que nos auditeurs comprennent bien dans quelle situation est Delacroix à cette époque-là, c'est en dépit de quelques coups d'éclat, dont la barque de Dante, et le massacre de Sceaux un an ou deux auparavant.
En 24, trois ans auparavant.
C'est encore un très jeune homme, c'est encore un très jeune artiste, ce qu'on considère comme un agité.
Oui, un jeune homme qui marche sur les toits, mais en même temps quelqu'un qui commence à compter, malgré tout.
Et le tableau est présenté au salon. Scandale.
Oui, alors ce qui est amusant, j'ai envie de vous citer une phrase de Gautier qui dit, ensuite, de façon postérieure, il dit « On ne pouvait marcher d'un pied plus hardi sur la queue de l'école davidienne », dit notre ami Théophile Gautier. Et j'aime bien cette expression. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose...
Oui, parce qu'il faut se rendre compte qu'on sort du néoclassicisme. La grande peinture, c'est David et son école.
Et c'est l'apothéose d'Homère, c'est ça qui est présenté.
Alors l'apothéose d'Homère, c'est le grand tableau d'Ingres qui est présenté en même temps en face, je crois.
Et en face, oui, exactement.
Alors, et qui est un tableau d'un classicisme et d'un ordonnancement absolu. Rien ne fait bouger les lignes. La puissance de Zeus n'est pas celle de la Surbanipale.
Voilà, non, mais rien ne fait bouger les lignes. En même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui s'y passent, mais ce n'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la concomitance, c'est celle-là. Et donc, ce jeune homme, effectivement, c'est encore un jeune homme, très jeune homme, mais c'est quelqu'un qui est reconnu comme celui qui va venir marcher sur les brisées, sur les plates-bandes, et vouloir renouveler. Alors, ce qui est amusant, juste pour finir là-dessus, c'est que Delacroix... n'avait pas sans doute estimé combien le scandale serait grand. Enfin, il ne s'attendait pas à un aussi grand scandale par rapport à son Sardanapale, en fait.
Il présente ce sujet très inattendu, quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de sujets sur l'Antiquité orientale à ce moment-là, ou c'était dans l'air ?
Il n'y a pas eu beaucoup de sujets à ce moment-là, mais malgré tout, la pièce de Byron avait dû avoir un certain, retentissement, puisque à peine 2 ans plus tard, alors et sans doute pas lié à Delacroix, plutôt lié à Byron, l'Académie royale de musique en fait son sujet de prix de Rome, puisque c'est Berlioz qui est prix de Rome. Donc 2 ans après, avec un Sardanapale, avec une cantate liée à la Sardanapale. Donc le sujet de Byron avait dû quand même, malgré tout, alors que la pièce n'est pas jouée, n'est pas jouée à ce moment-là. La pièce n'est jouée en Angleterre, la pièce de Byron n'est jouée en Angleterre que dans les années 30, en 1839, si je ne me trompe.
Et donc il va travailler quoi pendant 6 mois. C'est longuement préparé.
C'est longuement préparé. C'est une œuvre, vous le disiez tout à l'heure,
gigantesque.
Donc ouais. Il s'est longuement préparé. On le sait parce que il travaille avec un de ses amis qui est un jeune peintre, tout jeune peintre, qui s'appelle Hippolyte Poterlet, qui est un jeune peintre, qui meurt d'ailleurs assez tôt. Et Poterlet a fait une esquisse qu'on avait pu présenter au musée Delacroix il y a 2 ans, qui n'a pu faire qu'auprès de Delacroix, et qui est une esquisse très 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 colorée, encore plus colorée que le tableau, avec des roses,
là,
des
rouges. Vous ne parlez pas de l'esquisse que l'on pense,
Là, c'est une esquisse de Poterlet, mais qui est faite au moment quand Poterlet est dans l'atelier, enfin, est un ami de Delacroix et le voit. Donc il a travaillé assez longuement à ce tableau, qui est un tableau, auquel il s'est souvent référé finalement. C'est aussi quelque chose dont il garde le souvenir dans la manière de l'avoir entrepris.
Il dit souvent dans ses lettres que c'est son deuxième massacre. Il pense au massacre de Sceaux. Pourquoi ces deux grands tableaux successifs sur cette abomination, si je puis dire ?
Je pense que il y a chez Delacroix, d'abord, c'est de son temps. Il faut avoir à l'esprit que 1827, c'est l'année de la parution de la préface de Cromwell, et de la fameuse préface de Cromwell par Hugo, par le tout jeune Hugo.
Qui est le manifeste du
romantisme. Donc c'est dans l'air, cette idée aussi d'arriver avec quelque chose de l'ordre du manifeste, quelque chose qui fait bouger les lignes, et qui a idée de transformer et de faire bouger ces lignes. Donc il y a cet élément-là. Il y a aussi quelque chose chez Delacroix, et même si le lien avec son premier maître, hein, qui est Pierre-Narcisse Guérin, est quelque chose dont il s'est toujours un peu tenu à distance, que Guérin n'a pas vu de la croix. Guérin est quelqu'un qui n'a pas compris de la croix. Mais malgré tout, Guérin...
Qui pourtant a été dans son atelier pendant des années.
Était dans son atelier, et Guérin est un peintre de talent. Donc, mais ils sont complètement... Bon, c'est comme ça. Parfois, ça arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est que Guérin a un sens très juste du théâtre et du théâtral. Et du coup, certainement, malgré tout, aussi de la croix à ce sens très juste du choix de la représentation de l'instant. Donc il y a ce côté aussi très spectaculaire que de la croix met en œuvre dans les deux tableaux, hein, que ce soit les massacres comme le Sardanapale. Et puis il y a cette guerre d'indépendance de la Grèce qui est à la fois liée à l'Antiquité mais aussi liée au temps présent. Et pour cette génération qui est celle de Musset aussi, hein, donc née trop tard dans un monde déjà trop vieux, qui a le sentiment d'être passée à côté des grands événements de 89, c'est peut-être quelque chose qui se passe. Il y a un effet aussi, avec la guerre d'indépendance de la Grèce, il y a quelque chose qui frémit chez les artistes, comme il y a pu avoir dans les années 1930 avec la guerre d'Espagne. Hein. C'est quelque chose aussi, on y va parce qu'on part dans ce grand combat.
Et alors, ce manifeste du romantisme pictural va avoir un accueil incroyable, et je vous propose, Dominique, d'écouter à présent quelques textes qui témoignent du scandale que le tableau provoqua en 1827. Et je voudrais aussi que vous écoutiez ensuite une lettre du peintre qui s'exprime sur ses détracteurs.
Il y a de l'âme, des idées neuves, une exécution franche et hardie dans le Sardanapale. C'est Rubens, avec son dessin négligé, sa couleur chaude et vivante. Mais que de défauts se réunissent pour balancer ses qualités. Où sommes-nous? Sur quel sol la scène est-elle assise? Quelle confusion sur les premiers plans. Pierre-Athanase Chauvin, Le Moniteur Universel, 27 février 1828. C'est de tout son cœur qu'il a fait le Sardanapale. Il y est allé de passion, de sentiments. Et malheureusement, dans le délire de sa création, il a été emporté au-delà de toutes les bornes. Son talent, si original, est absent de cette page tracée sous l'inspiration d'une grande pensée poétique. Il a voulu composer le désordre, et il a oublié que le désordre lui-même a une logique. Il faut le dire, et vous pensez qu'il m'en coûte. Non seulement la somme des défauts l'emporte dans cet ouvrage sur celle des beautés, mais les beautés ne sont pas. Auguste Jalle, 1828. Je suis ennuyé de tout ce salon. Ils finiront par me persuader que j'ai fait un véritable fiasco. Cependant, je n'en suis pas tout à fait convaincu. Moi, je dis que ce sont tous des imbéciles, que ce tableau a ses qualités et ses défauts, et que s'il y a des choses que je désirerais mieux, il y en a pas mal d'autres que je m'estime heureux d'avoir faites et que je leur souhaite. Eugène Delacroix, lettre à Charles Soulier, le 11 mars 1828.
Vous êtes sur France Culture et je suis avec Dominique de Fonréau, la directrice du Musée de la Croix, pour examiner ce sublime chef-d'œuvre, le Sardanapale du Musée du Louvre. Et nous venons d'entendre les réactions de la critique virulente de l'époque et la réaction de la Croix à ces critiques. Mais Dominique de Fonréau, personne n'avait soutenu l'affaire.
Alors, il y a eu quand même. Je vais vous lire tout à l'heure, tout de suite, un petit texte d'Hugo et qui est très beau. Mais c'est vrai que c'est un tableau qui a divisé et ça a blessé de la Croix, y compris certains de ses proches. Donc il y a eu des soutiens, mais c'est vrai que alors que les massacres, par exemple, avaient été de façon universelle soutenus par
les
ses proches.
Les massacres de Sciot, le tableau précédent, il y a 2 ans avant, 3 ans.
Là, vraiment, le Sardanapale suscite beaucoup d'intrigues. Néanmoins, notre ami Victor Hugo, je vous rappelle que c'est le tout jeune Hugo. Hein, c'est
C'est-à-dire qu'il a à peu près le même âge que Delacroix.
Ils ont 4 ans de différence. Vous savez, ce siècle avait 2 ans. Donc, ouais, voilà. Et Delacroix est né en 1798. Donc, il a 25 ans, Hugo.
Donc, c'est une bande de jeunes.
C'est une bande de jeunes sympathiques. Et il écrit « Ne croyez pas que Delacroix ait failli. Son Sardanapale est une chose magnifique et si gigantesque qu'elle échappe aux petites vues. Ce bel ouvrage n'a point eu de succès près des bourgeois de Paris. Siffler des sceaux, son fanfare de gloire, nous dit Victor. » Voilà.
Bon, il a quand même la vista, hein, comme voilà, vous dites. Hein.
Exactement.
Voilà, pour un jeune homme.
Pour un jeune homme, moi, je trouve ça. Voilà. Donc, il y a eu quand même, malgré tout. Mais c'est vrai que c'est un tableau extrêmement surprenant pour l'époque. Au-delà du sujet, c'est la composition qui est pas supportable pour l'époque, parce que le grand enjeu de l'époque, c'est d'être fidèle aux préceptes de l'Académie, tels qu'elles avaient pu être exprimées par Félibien à la fin du XVIIe siècle et remises en avant et de nouveau par l'école davidienne. Hein. C'est vraiment l'idée d'un héros central, c'est l'idée d'une composition pyramidale, c'est l'idée de ligne de force. Or, le tableau a une composition en ellipse tout à fait étonnante, hein, avec vraiment une ellipse qui rend tout à fait étonnante, qui tournoie. D'ailleurs, avec presque un rythme musical, on entend comme si on attendait quelque chose de musical. Et puis, au-delà de ça, donc il y a cette composition en ellipse. Et puis, la composition tient non pas par le contour du dessin, qui était la grande histoire de l'époque, hein, la netteté des contours du dessin, mais tient par la juxtaposition des couleurs. C'est-à-dire, c'est une ellipse et c'est un tourbillon, c'est un tournoiement de rouge, de jaune, de couleurs. Donc, c'est ça qui choque profondément. Ça choque quelque chose qui, non pas du genre du sujet qui pouvait être supportable, hein, parce que de toute façon, ils y allaient au niveau des massacres, on avait bien l'habitude dans la peinture d'histoire.
Oui, on coupait bien les têtes, ça saignait pas mal.
Pas improbable, ouais. Ça saignait pas mal. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que tout d'un coup, on rompt avec des préceptes académiques absolument intangibles pour l'époque, qui sont la composition, qui sont le dessin, qui sont le contour.
Mais quand vous dites que ça tient par la couleur, vous avez évidemment tout à fait raison, mais quand on voit les dessins préparatoires, le trait est aussi emmêlé en forme de galaxie quasiment que le sera la couleur dans le mouvement général comme ça.
Tout
de,
à fait.
De la...
et le rapport au dessin, le fait est, c'est que le rapport au dessin est très important, mais nous le savons nous maintenant, mais ça c'est quelque chose de très particulier dans l'art de Delacroix, c'est que Delacroix dessinateur n'a pas existé de son temps. Delacroix n'a jamais présenté ses dessins, les a montrés dans un tout petit cercle intime, les a gardés auprès de lui. À sa mort, ils sont tous dans l'atelier qui est aujourd'hui devenu le musée. Et c'est la vente après décès de Delacroix qui révèle ce Delacroix dessinateur. Mais à l'époque, ils n'ont pas idée. Donc on a l'impression, d'une certaine manière, d'un peintre qui a montré là sa première inspiration. Et qui, alors que ce n'est pas vrai, on sait qu'il y a beaucoup d'études préparatoires, on sait qu'il y a des esquisses. Et ça heurte quelque chose de l'époque où... il faut absolument que la main soit guidée par l'œil et par l'esprit. Enfin, ça, c'est la grande...
Mais c'est vrai que c'est assez frappant de voir à quel point il conserve une spontanéité dans le geste, dans l'écriture générale du tableau, alors que c'est infiniment préparé, que ça a été médité, que ça a été... Il y a des esquisses quasiment pour chaque personnage.
Absolument, il y a des esquisses, et puis il y a une étude, une assez importante étude préparatoire qui est conservée aussi au Louvre. Il y a cette esquisse de Potterlet qui a été faite par Potterlet sous sa direction. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a énormément de choses. Il y a des pastels qui représentent certaines des femmes, qui représentent aussi même une... Il y a un très joli pastel qui représente une babouche. Enfin, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éléments. Mais c'est vrai que pour une société qui n'imagine pas Delacroix dessinateur, hein, c'est la grande opposition Delacroix coloriste, Ingres dessinateur, que nous aujourd'hui on renverse aussi, mais du coup on a l'impression d'une spontanéité. Donc ça choque l'esprit académique.
Et alors,
ils ne lui pardonnent pas, ils ne lui pardonneront jamais le Sardanapale d'ailleurs.
Ah oui,
mais c'est la raison pour laquelle
donc, Charles X voit le Sardanapale et refuse de l'acquérir,
il est
acquis, c'est ça.
Il est pas, comment voulez-vous, c'est un scandale. D'abord, il a déjà été admis au salon qu'avec une voix supplémentaire pour être admis, ne serait-ce qu'au salon, malgré le soutien habituel.
Mais il faut se rendre compte que, corrigez-moi si je me trompe, Dominique de Fonréau, mais Il n'y avait pas un tableau de la Croix au Salon, c'était une dizaine de tableaux.
Alors, il y a plusieurs tableaux qu'il envoie au même moment avec le Sardanapale. Oui, bien sûr, il n'y a pas que le Sardanapale.
C'est
oui,
un artiste jeune, comme ça, monte d'un coup 12-13 tableaux.
Alors,
et...
12-13, peut-être pas à ce moment-là. Je n'ai pas regardé le nombre exact, mais on pourrait le faire. Mais il est présent avec d'autres éléments. Mais surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit, et ça, c'est que ces salons des années 1820, il y en a trois, hein, 1820, il y a donc 1822, 24 et 27, sont des salons très brillants et très bien soutenus par celui qui les coordonne à l'époque, qui est le comte de Forbin, qui est un ancien élève de David, qui est peintre, mais qui est surtout un magnifique, qui était en fait un magnifique soutien pour les jeunes artistes. Hein.
Et alors, c'est extrêmement populaire, ces salons ? Tout
c'est
le monde y va ?
Extrêmement populaire. Ah oui ? C'est extrêmement populaire, c'est quelque chose qui compte, c'est un événement qui compte. Ça, je pense qu'on aimerait tous, vous comme moi, que les...
J'aimerais bien les revisiter, oui.
Voilà, que les foules se précipitent dans nos états, dans nos institutions de la même façon.
Ça arrive chez vous,
ça
je
arrive,
le sais.
Oh, bah, au palais de Tokyo surtout, mais...
Et donc, la foule intervient, il y a déjà des textes, la critique s'embarque dans l'affaire tout de suite, les journaux, les gazettes.
La grande critique, le grand modèle de la critique, on le sait, c'est celle qui naît chez Diderot hein, au XVIIIe siècle, mais c'est vrai que ces années 1820 vont voir revenir vraiment cette critique de salon très vive, avec d'ailleurs par exemple un jeune homme, lui aussi, qui a une autre destinée ensuite, qui naît à la critique avec Delacroix, c'est Adolphe Thiers, en 1822, qui commence sa critique par Delacroix.
Et notamment. Qui en parle la marque de Dante, en soutenant la marque de Dante, c'est magnifique.
Donc c'est très important, et ça ne va faire que s'amplifier tout au long du XIXe siècle. On citait Baudelaire tout à l'heure. Baudelaire devient la grande figure aussi a posteriori du critique,
tard, hein,
30
oui.
ans plus tard. Et là aussi, le nombre de salons, de commentaires de salons qui sont publiés, on aurait du mal à l'imaginer aujourd'hui.
Quand Delacroix prépare ce tableau, il prépare ce tableau dans un atelier qui n'est pas celui dans lequel est le musée aujourd'hui.
Non, bien sûr. Non. Là, il s'installe, en fait, il s'installe assez...
C'est Notre-Dame-de-Lorette ? Il est vers
Notre-Dame-de-Lorette ? Il est dans ce coin-là. C'est pas celui de Notre-Dame-de-Lorette, mais il est effectivement à ce moment-là... il a été à un moment donné boulevard Voltaire, et puis il a été aussi... Il est de nouveau côté rue des Martyrs. Non, c'est pas celui qui est devenu le musée. Il s'y installe...
Place Furstimbert,
il s'y installe en 1857, donc beaucoup, beaucoup plus tard.
Il a déjà un espace suffisamment grand. Comment est-ce c'est
Il a déjà il a des espaces effectivement suffisamment grands pour pouvoir le peindre.
À ce moment-là, qui avait fait des tableaux aussi immenses, Géricault peut-être?
À ce moment-là, des tableaux aussi immenses, il y a Géricault, il y a Gros aussi. C'est le tableau de la peinture d'histoire, mais il y a aussi Delaroche, par exemple. Hein, le jeune Delaroche aussi fait ses grands tableaux.
Donc c'est pas une anomalie de l'époque.
Non, c'est pas une anomalie de l'époque, parce que là, pour le coup, c'est malgré tout ce que ces jeunes romantiques, si on peut dire comme ça, ont retenu de la leçon davidienne, c'est de revenir à la peinture d'histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette rupture par rapport à David est aussi une fidélité.
Vous dites Gros, c'est vrai que j'avais oublié, c'est la bataille d'Eylau du Louvre, c'est cette fameuse bataille napoléonienne immense du Louvre, qu'on a considéré aussi comme un tableau romantique, qui est aussi un massacre, objectivement.
Absolument, qui est un massacre.
Qui est un massacre, Et donc, Géricault, donc la Méduse,
le radeau de la Méduse,
qui est un immense tableau. Qu'est-ce que recherchaient les artistes en peignant avec cette échelle immense?
Le rapport, c'est vraiment le rapport de redonner sens à la peinture en se colletant avec l'histoire et avec la représentation. L'idée, c'est de donner forme et donner visibilité à des sujets, et donc d'anoblissement aussi de leur propre art. Ce qui est intéressant dans le rapport au renouveau de la peinture d'histoire qui naît avec David, hein, puisque c'est vraiment lui qui le met en place, et notamment avec les tableaux avant la Révolution, mais aussi après avec la mort de Marat et puis tous les tableaux liés à Napoléon Bonaparte et à Napoléon Ier, c'est vraiment cet enjeu de dignité de la peinture et aussi de rapport à l'histoire. Et c'est la très grande manière de vouloir frapper aussi les esprits. C'est un sens qui inscrit la peinture dans une histoire de la création et de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que David le premier en France va se colter avec les événements contemporains, hein, notamment la Révolution française et ensuite l'Empire. Ce que fait aussi Gros, par exemple, avec la bataille d'Eylau, là, en l'occurrence, c'est un concours qui avait été lancé par Vivant Denon. Ce que fait Géricault avec le radeau de la Méduse.
Dans lequel Delacroix a posé, d'ailleurs.
Dans lequel Delacroix a posé pour le jeune homme qui est de dos. Et ce que fait aussi, comment dirais-je, Delacroix pour les massacres de Kyo. Donc, c'est aussi un rapport avec l'histoire. La peinture d'histoire, c'est le sommet de la hiérarchie du genre et c'est quelque chose qui permet de valoriser la création du peintre en montrant sa capacité finalement de faire œuvre et de faire représentation à partir d'événements passés ou du présent ou contemporains.
Alors on va rentrer maintenant un petit peu dans le tableau, on va rentrer dans le sujet du tableau. Je vous propose pour commencer d'écouter Delacroix qui définit son sujet dans un petit texte édité dans le livret du Salon de 1827 justement.
Les révoltés assiégèrent Sardanapale dans son palais. Couché sur un lit superbe au sommet d'un immense bûcher, Sardanapale donne l'ordre à ses eunuques et aux officiers du palais d'égorger ses femmes, ses pages, jusqu'à ses chevaux et ses chiens favoris. Aucun des objets qui avaient servi à ses plaisirs ne devait lui survivre. Aïché, femme bactrienne, ne voulut pas souffrir qu'un esclave lui donnât la mort et se pendit elle-même aux colonnes qui supportaient la voûte. Baléa et Chanson de Sardanapale mit enfin le feu au bûcher et s'y précipita lui-même. Eugène Delacroix, livret du Salon de 1827.
Dominique de Fourriau, donc nous entendions la description du sujet par Sardanapale, ce sujet, mais par Eugène Delacroix, bien entendu, et ce sujet met en scène un nombre de personnages considérables, ce qui avait déjà pas mal choqué à l'époque. Je me souviens qu'on a dit qu'il fallait, pour préparer ce tableau, 2 corbillards, 5 omnibus, quelques camions qui portent toutes les orfèvreries considérables jetées là. Comment ça se passe, par exemple, l'ensemble des décors, ils ont été reconstitués dans son atelier pour les... Il a travaillé d'imagination, comment ça marche?
C'est compliqué, notre ami Delacroix, parce qu'à la fois, il a besoin de références, il est probable que pour le Sardanapale, il se soit inspiré des objets qu'avait notamment rapporté son ami Jules Robert Auguste, qui était peintre et sculpteur, et qui était allé en Orient et en Grèce. Donc on sait, par exemple, que pour les babouches, c'est probable qu'il se soit inspiré d'éléments. C'est probable aussi qu'il ait cherché des tissus. On sait que, par exemple, il y a certains éléments voilà, qu'il avait rapportés aussi, qu'Auguste avait rapportés. Mais il n'est pas un reconstitueur complètement. Il travaille. C'est intéressant parce que le rapport qu'il a à l'objet, c'est plus un rapport d'inspiration et un rapport mémoriel qu'un rapport de mimétisme, en fait. Il travaille moins comme un décorateur de théâtre ou de cinéma qui va installer tous les éléments, enfin de cinéma après, pardon, je veux pas, bien évidemment, le cinéma a été inventé bien après Delacroix, mais un décorateur de théâtre à son temps et ensuite avec un décorateur de cinéma qui va réinventer complètement la scène. Il va plutôt chercher des objets qui vont faire surgir son imagination. Donc il a une scène comme ça, d'ailleurs, je vois pas comment elle aurait pu être reconstituable d'ailleurs dans son intégralité.
Ça aurait été
absolument spectaculaire. Mais ce qui est intéressant par rapport à la question que vous posez, c'est que Gautier, quelques années plus tard, parlant finalement de la représentation de Byron, parce que Byron, donc la pièce de Byron est représentée bien plus tard, dans les années 1830, et que ensuite des pièces s'inspirant de celles de Byron, notamment d'un certain Lefebvre, sont présentées à Paris dans les années 1850, hein, ce que chronique Gautier. Gautier les trouve d'ailleurs assez ennuyeuses, hein, dit d'ailleurs que la scène, que la pièce en fait représentée est assez ennuyeuse. Et il dit quelque chose qui évoque pour moi l'œuvre de Delacroix. Il dit que finalement, ce qui convient à cette thématique de Sardanapale, c'est l'opéra. Et c'est vrai que je trouve que
Berlioz va le comprendre, voilà, puisque Berlioz va s'en inspirer quelques jours plus tard.
Et donc je trouve que ça, c'est assez vrai. Il y a un rapport effectivement lié à l'opéra et donc à quelque chose qui est moins dans la reconstitution théâtrale ou ensuite cinématographique que quelque chose qui est finalement plutôt de l'ordre de l'inspiration et du souffle et du rythme. C'est-à-dire quelque chose qui permet le sens de l'ellipse, pas seulement de la composition, mais aussi même de l'ellipse de la pensée. Parce que ce qui me frappe toujours beaucoup quand on regarde le Sardanapal, c'est que on regarde jamais vraiment, chaque fois qu'on le regarde, on regarde jamais vraiment le même personnage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, d'ailleurs c'est ce qui avait choqué les tenants de l'académisme, c'est que tous les regards ne convergeaient pas vers le seul Sardanapal, mais que l'œil, quoi qu'il arrive, est entraîné. Alors, suivant l'inspiration du moment, soit par l'homme qui tient le cheval, soit par une des suivantes, soit par l'éléphant, enfin, c'est assez... Il y a quelque chose d'assez étonnant par rapport à ça, et qui pour moi a toujours évoqué, et c'est pour ça que j'étais contente de voir que Gautier avait pu l'évoquer avant moi, bien sûr, c'est un précédent intéressant, de voir qu'on est dans le mode opératique, en fait, vraiment. On est dans quelque chose qui rapporte cet élément, la puissance de l'opéra.
Et en plus, dans une salle fermée, donc il y a puissance voilà. Que le cube, si je puis dire, de l'espace tient de façon très spectaculaire. Oui, l'homme dont vous parliez, qui est en train d'attirer ce cheval vers lui et qui va le poignarder, enfin qui va le tuer... Est très impressionnant parce qu'il y a cette bride rouge comme ça qui traverse, qui passe devant le corps noir. Oui, c'est d'une beauté de coupe de couleurs.
Inspiré par Gros d'ailleurs. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui l'a aussi intéressé par rapport au tableau de Gros, parce que même si Delacroix avait été élève de Guérin, il s'intéresse beaucoup à Gros.
Et est-ce que la sensualité, parce que c'est une orgie d'une certaine façon, c'est un meurtre immense, collectif, mais c'est aussi une orgie.
Absolument.
Est-ce que cet aspect-là a été relevé? Parce que j'ai pas entendu dans les critiques de l'époque qui que ce soit qui ait été choqué par ces corps de fer.
Je pense que la rupture était tellement grande académique et ça leur permettait de pouvoir se lancer que toucher ce sujet qui aurait été plus cabreux aurait pu leur poser quelques complexités, mais ça a été remarqué par les proches de Delacroix ou ceux qui le soutenaient, cette sensualité, et très vite ensuite par ceux qui ont écrit sur le Sardanapal après la présentation au salon. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit par rapport au Sardanapal, c'est que comme il n'a pas été acheté par l'État, c'est un tableau qui est démontré à nouveau en 1861, d'ailleurs à l'occasion où Baudelaire écrit la critique de tout à l'heure, mais qui finalement n'a pas été tellement montré après, entre 1827 et 1861.
Donc il y a une génération qui ne l'a pas vu pendant 40 ans.
Il n'a pas vu à un moment donné, ça il faut avoir à l'esprit. Donc on garde le souvenir de ce tableau et on en garde malgré tout le souvenir de cette sensualité.
Il est revenu comment ?
Alors, il revient bien des années plus tard, chez Durand-Ruel, bien des années plus tard. Alors ça,
chez Durand-Ruel, il est passé chez Durand-Ruel à cette époque-là.
Il est passé chez Durand-Ruel.
Donc on doit être vers 1880.
On est en 1878 exactement, et donc il passe chez Durand-Ruel, et ensuite il est acquis par Arrault, donc qui était un marchand, donc et puis en 1892, et après. Par son propriétaire qui le vend au Louvre, qui était le baron Vita, qui était un collectionneur, qui possédait un certain nombre d'œuvres de Delacroix, qui a été aussi d'ailleurs un donateur et du musée Delacroix et du musée du Louvre, et donc qui est le dernier propriétaire de l'œuvre.
Alors, revenons au sujet. Donc, nous sommes en Mésopotamie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est Assurbanipal, vous pensez que c'est un... C'est pas Sardanapal, c'est Assurbanipal ou c'est son frère?
Oui,
ou c'est...
Enfin, en tous les cas, c'est cette idée du dernier. Il y a quelque chose comme ça, hein, du dernier roi qui disparaît. Hein, ça, c'est quelque chose qui est vrai. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on a à l'esprit, c'est que on le sait bien, c'est quelque chose qui a été repris par différents auteurs antiques autour donc de toute l'histoire de la Perse, et que c'est vrai que ça a été notamment dans quelqu'un qui inspire à la fois Delacroix comme Byron, Diodore de Sicile, hein, qui a décrit Assurbanipal, voilà. Mais c'est aussi très certainement, et aujourd'hui,
mais qu'il a décrit, pardon de vous interrompre, qu'il a décrit véritablement comme une sorte de satrape comment dirais-je, décadent.
Oui, alors, ce qui est intéressant, et je pense que ça a pu intéresser Delacroix et Byron, évidemment, c'est qu'en fait, il en fait une figure duelle, à la fois très masculine et féminine, en fait, avec...
Il se déguisait en femme.
Voilà, il est à la fois efféminé, et en même temps, il est un guerrier courageux. Donc, tout ça à la fois beaucoup intrigué.
On disait qu'on avait mis sur son tombeau un danseur ivre qui était sculpté et qui montrait les manies. Les vanités de la vie.
Les vanités de la vie. Donc, il y a ça. Il y a quelque chose, c'est une figure duel qui intéresse beaucoup. Donc, il y a quelque chose d'un peu légendaire parce que à l'époque, on sait rien. On est bien avant aucune découverte. Donc, on sait pas grand chose. On sait aussi que, très certainement, ça a été inspiré aussi, que le Sardanapale a été aussi inspiré à Delacroix. Peut-être par Hérodote et par ce qu'il raconte en particulier de la mort et d'un bûcher d'un roi antique. Hein, ça a été aussi une des sources qui pouvait être citée. Et puis aussi le rapport avec la chute de Persépolis et avec Alexandre. Hein, c'est aussi tout ça se mêle. Hein, on est dans une inspiration qui n'est pas une inspiration historique. D'abord, de toute façon, il serait bien en peine parce qu'il n'a pas les éléments historiques. Ça, c'est l'histoire qui va se passer et que vont nous raconter nos collègues de Lens à partir du mois de novembre, hein, du 1er novembre 2016.
Donc, on ouvre Lens, effectivement, en novembre 2016, et c'est un des prétextes de cette émission. Voilà. Il y a cette grande exposition sur la Mésopotamie. Mais Sardanapale, c'est devenu un adjectif. Sardanapalesque, en fait. Hein, c'est-à-dire, au fond, totalement décadent, extrême, avec un laisser-aller, une débauche totale.
Oui, et puis grâce à Delacroix, c'est finalement aussi, comment dirais-je, un mot qui tout de suite évoque une couleur. C'est-à-dire que on a en tête, on dit Sardanapale, et tout le monde a cette idée de ce rouge doré flamboyant du tableau. C'est ça qui est quand même magique, hein. C'est la magie de ça. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que, vous le savez, les peintures de Delacroix à Saint-Sulpice sont en cours de restauration et notamment...
Donc là, il s'agit de la lutte de Jacob et de l'Ange.
Et de l'Héliodore chassé du Temple. Et l'Héliodore chassé du Temple, en le redécouvrant grâce à la restauration, on voit que Delacroix a de nouveau pensé à son Sardanapale. Il y a aussi une chute de cette manière-là, puisque l'Héliodore est chassé, l'Ange fait tomber l'Héliodore. Et il y a cette magnifique des tissus, magnificence des bijoux, et Delacroix s'est même souvenu de la femme, en fait, qui nous montre son dos magnifique, sensuel, dont vous parliez tout à l'heure, qui est représentée aussi à peu près de la même façon dans l'Héliodore. C'est assez intéressant parce que là, Héliodore, on est tout à la fin de la vie de Delacroix, puisque la chapelle est inaugurée en 1862.
Donc, drôle de sujet pour...
Mais un sujet étrange.
Pour une église.
C'est complètement étonnant. Mais ce programme que Delacroix a en partie forgé lui-même est tout à fait étonnant, parce que c'est la chapelle des Saints Anges, et il choisit d'être sur l'Héliodore chassé du Temple, qui n'est pas l'événement le plus, comment dirais-je, le mieux connu des textes bibliques.
Et dites-moi, donc on entendait tout à l'heure, je vous entendais citer Victor Hugo qui soutenait... Est-ce qu'ils se sont connus ?
Ils se sont connus.
Il y a eu une relation pas forte.
Il y a une relation. Ils se connaissent à ce moment-là.
Pas forte parce que Delacroix est misanthrope ou bien ?
Pas forte. Pas forte parce que de toute façon, notre ami Hugo a pu. Enfin, tout le temps, Hugo est en France. Hugo, vous le savez bien, devient père de France pendant tous les. Il ne faut pas simplement penser au Hugo père de la République. On a eu aussi un Hugo bien installé malgré tout avec la monarchie, notamment sur la monarchie de Juillet. Donc, il a une représentation que notre ami Delacroix se défie beaucoup. Il est très en défiance de la politique. Ça, je pense que ça vient de son enfance parce que son père, qui avait servi le régime bonapartiste, ensuite, quand il s'est retrouvé, lui, Delacroix, orphelin, il a été très abandonné par tout le monde au moment de la restauration. Donc, je pense qu'il se méfie de tout ça. Donc, il y a ça.
Pourtant, il prendra position avec la liberté guidant le peuple.
Position picturalement. C'est une position picturale.
Il soutient la situation qui était une révolte.
Mais c'est une position picturale.
Pour la liberté. De la presse contre le vote.
C'est une position picturale. C'est aussi un magnifique moyen, on parlait de la peinture d'histoire tout à l'heure, de transcender la peinture d'histoire en associant une allégorie avec la représentation de Paris. Donc, je pense que...
Peintre soutient avec ses propres armes, qui sont le pinceau. Regardez Monet, admiré par Clémenceau,
comme
héros de la guerre de 14-18, alors qu'il n'est pas sorti de son jardin.
En 48, il se défie beaucoup, quand même, malgré tout ça. Donc, c'est vrai qu'il est quand même pas à distance. Donc, il y a ça. Et puis, après, Hugo est en exil, quand même. Exil volontaire, mais enfin, est en exil. Et puis, Delacroix n'est pas très facile. De toute façon, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Qui finalement, je pense, n'est vraiment sincère qu'avec ses amis d'enfance les plus proches. Donc il y a pas une relation. Ils se connaissent. Il y a pas de mésentente, mais il y a pas une amitié.
Il n'a pas rencontré Byron.
Non, il n'a pas rencontré Byron.
Mais il l'a admiré profondément.
Profondément, il l'a admiré profondément.
Ouais. Il a rencontré Balzac, avec lequel il s'est pas très bien entendu non plus.
Oui, mais Balzac l'admirait beaucoup. Balzac lui dédie La fille aux yeux d'or. Donc, Balzac a beaucoup de...
Le genre inconnu est inspiré de...
Non, je pense pas. Croix, non, je pense pas. Non, mais, et puis, il y a aussi Louis Launay, enfin, donc, qui, malgré tout, ils sont pas... Delacroix est pas trop sévère, quand même, avec certains écrits de Balzac. Mais c'est difficile de trouver grâce aux yeux de Delacroix. Hein, parce que
alors, Delacroix, lui, a trouvé grâce aux yeux de Baudelaire, qu'il a aimé malgré tout, et Delacroix lui a pas vraiment rendu son affection.
Oui, mais je pense que c'est plus compliqué que ce qu'on a dit. Parce que malgré tout, je pense qu'il y a dû y avoir plus de liens. Ça, c'est une théorie en partie personnelle. Enfin, je suis pas la seule à la défendre, mais je pense qu'il y a dû y avoir plus de liens parce que quand on lit les écrits de Delacroix qui précèdent ceux de Baudelaire, il y a beaucoup de choses que Baudelaire a ensuite repris et qu'il n'a pu avoir que par l'échange avec Delacroix puisque ça n'avait pas été publié. Donc je pense que c'est plus complexe. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis malgré tout, la terrible Génie Le Guillou, la terrible gouvernante de Delacroix, laisse Baudelaire entrer
sa
après...
sa dernière compagne, voilà, en fait. Hein.
Oui, enfin, c'est même sa seule compagne, d'une certaine manière, enfin, de façon très, très distante, évidemment, laisse rentrer Baudelaire après le décès du peintre. Elle n'a pas laissé rentrer tant de gens que ça, rue de Fürstenberg. Donc voilà, il doit y avoir... Difficile à savoir, mais il y a dû y avoir...
Alors justement, Dominique de Fonrayot, écoutons donc Charles Baudelaire en 1846 à propos de Delacroix.
Un grand peintre, cherchant la poésie des douleurs humaines, du sentiment qui émeut le cœur, de l'idée qui élève l'âme, cherchant surtout une des plus belles royautés de la peinture, la couleur. Comme les musiciens qui parcourent toute la gamme des tons, savante ritournelle de bleu, vert, jaune, couleur vibrante, tragique, magie, témérité du pinceau, diversité ondoyante, délicieuse, exubérance, le drame du ton. C'est mieux que l'art s'il est possible, car c'est le cœur, l'humanité et la vie. L'artiste reçoit une impression, il la fait revivre en la recréant. Il est le peintre le plus complet de son époque. Il a sur sa palette Shakespeare, Goethe, Byron. Il a la vie, il a le soleil. Toute une œuvre immense et variée, profondément humaine, mêlée à tous les événements, à toutes les fièvres, à toutes les aspirations de ces temps-ci. Charles Baudelaire, 1846.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'émission Les Regardeurs. Nous sommes avec Dominique de Fonrayot, la directrice du musée Delacroix. Et nous commentons cette œuvre admirable de Delacroix qui s'appelle
La mort de Sardanapale.
Voilà. Et nous écoutions à l'instant donc Baudelaire. Et Baudelaire parle de la couleur et nous n'avons pas beaucoup parlé de la couleur. Et je voudrais savoir, Dominique de Fonrayot, qu'est-ce qu'a regardé Delacroix lorsqu'il a peint ou avant de peindre ce tableau? Il a regardé Rubens, il a regardé Goya. Qu'est-ce que regardait ce grand artiste?
Alors, il regarde beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose qui est passionnant chez Delacroix. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que Delacroix peut finalement renouveler cette peinture d'histoire dont on parlait tout à l'heure parce que il a la grande chance d'appartenir à cette génération qui a le musée à sa disposition.
Le Louvre. Il va au Louvre.
Il va beaucoup, beaucoup.
Et le Louvre est déjà riche. Il a commencé à la Révolution.
Il est riche. Le Louvre est riche. Donc le Louvre a déjà beaucoup de choses. Il est récent, mais à l'époque de Delacroix, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que le Sardanapale est inspiré notamment par Rubens. Hein, il regarde Rubens et notamment les grands Rubens de la Galerie Médicis, hein, puisque notamment les femmes sont inspirées en partie hein, de certaines des femmes de
ce qu'on appelle la Galerie Médicis, vous pouvez nous préciser?
Ah oui, pardon. La Galerie Médicis, ce sont les œuvres que Rubens avait peint pour Marie de Médicis, pour son palais du Luxembourg, et qui ensuite ont été installées au Louvre.
C'est un grand nombre de tableaux.
C'est un grand nombre de tableaux et ça, c'est toute une séquence magnifique hein, de grands tableaux. Et c'est vrai que ça a beaucoup inspiré Delacroix. Il regarde Gros, dont on parlait tout à l'heure, mais il regarde aussi, et ça c'est très intéressant, il va regarder aussi des miniatures indiennes. Et ça, c'est quelque chose qui va copier à la Bibliothèque Royale. Hein,
qu'est-ce qui retire des miniatures indiennes? Alors, ça m'a l'air si loin de son monde.
Mais pas tellement. Et on n'est pas tellement loin de Sardanapale non plus, puisqu'on on a pu dire aussi, avec l'éléphant notamment, hein, que Sardanapale, c'était la représentation aussi un peu lointaine d'un roi mythique indien. Ce qui retire des miniatures indiennes, c'est, je pense, là... plusieurs choses. D'abord, le rapport à la couleur. Hein, il est séduit par des couleurs très vives, très brillantes de ces miniatures. La composition. Parce que je pense que avec cette composition qui n'est pas une composition qui est avec les œuvres qui sont réparties,
on n'est pas dans les pyramides traditionnelles.
Voilà. On peut répartir les différents éléments sur la page. Donc ouais. Ça l'intéresse beaucoup. Mmh. Et d'ailleurs, dans certaines de ses copies ou d'interprétations qui fait des miniatures indiennes, on trouve quelque chose dont il s'est resservi ensuite au Maroc, dans la disposition de la page du carnet, donc avec des œuvres qui sont
sur
différents éléments.
C'est vrai que deux ans après, il fait son premier voyage au Maroc.
En 1832, il va au Maroc, le seul voyage au Maroc. Donc ça, il y a les miniatures indiennes qui regardent beaucoup, et ça, c'est effectivement très intéressant. Et puis, il est aussi, on le disait tout à l'heure, très inspiré par les couleurs des objets orientaux que commencent à rapporter certains de ses amis proches de lui. Donc, il y a une diversité d'inspiration très, très grande qu'il peut voir par rapport à ça, qui le nourrissent, en fait. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui n'appartient qu'à Delacroix, enfin, du moins, pas qu'à Delacroix, mais dont il est... certainement quelqu'un qui est très sensible, c'est son idée de comment exprimer par la couleur la justesse des émotions qu'il a ressenties. C'est quelqu'un qui donne à la couleur très tôt, et dès avant même les recherches de Chevreul, et dès avant tout ce qu'on a pu écrire, bien sûr, sur la couleur et sur le rythme de la couleur, il attribue à la couleur le rôle de faire passer la justesse de l'émotion. Et donc, il
lâche. Est-ce que Géricault faisait la même chose, ou est-ce que vous pensez que Delacroix sur la couleur va beaucoup plus loin?
De ce point de vue-là, je pense que Delacroix va beaucoup plus loin, parce qu'il le pense même dans l'écrit. Moi, il y a des textes de Delacroix que j'aime beaucoup, hein, qui sont des textes pour lui, qui n'ont été publiés qu'après lui, mais dont tu savais plus ou moins que ce serait publié, qui sont des annotations de couleurs, qui sont presque comme des poésies, que je me suis un jour amusée à lire comme une poésie, et ça fonctionne comme ça. Donc, il y a vraiment une recherche de cette justesse de la couleur qui lui appartient très particulièrement, pour lequel il a beaucoup influencé ensuite, bien sûr, les peintres après lui. Et je pense que pour le Sardanapale, mais déjà pour ses deux autres œuvres, mais pour le Sardanapale notamment, il s'est intéressé beaucoup à savoir comment ces couleurs très flamboyantes pouvaient aussi participer à la connaissance du sujet. Là, il y a vraiment chez lui... une véritable innovation.
Vous êtes d'accord avec Baudelaire, couleur vibrante, tragique, magie, témérité du pinceau. Et Baudelaire va jusqu'à parler de ce mot qui va avoir beaucoup d'importance ensuite. Il dit « l'artiste reçoit une impression, il la fait revivre en la recréant ». Est-ce que vous pensez que c'est une source pour la suite?
C'est une source pour la suite.
C'est-à-dire pour les impressionnistes?
C'est une source pour la suite. Hein. Vraiment, le rapport à la fois à cette exigence qu'a Delacroix de pouvoir rendre ce qu'il a ressenti. Hein. Il parle lui-même déjà de sensations, hein, comme Cézanne l'a fait après lui. C'est une source évidente. Hein. C'est certain que Delacroix ensuite, et ça a été montré notamment par l'exposition qu'il y a eu à Londres, à la National Gallery, Delacroix est un modèle ensuite, par sa peinture, mais aussi par sa personne, pour les impressionnistes, mais aussi pour Cézanne, et ensuite pour Van Gogh ou pour Gauguin. Hein. Le rapport à la couleur d'un Gauguin, et beaucoup aussi, naît aussi beaucoup de ce rapport à la couleur chez Delacroix.
Quand on parle de la couleur, est-ce qu'il serait possible qu'il ait pris une partie de cette couleur dans un des seuls voyages qu'il a fait? C'est l'Angleterre, au fond. Parce qu'il avait adoré Titien, Tintoret, il a adoré la peinture vénitienne, mais il n'y a pas été.
Il n'y a pas été. Alors, en Angleterre, moi je pense qu'en Angleterre, il voit des collections particulières, donc il doit avoir des Titiens anglais, ça très certainement. Il visite l'atelier de Laurence et...
Et quelques peintres anglais, quand même.
Et quelques peintres anglais, oui, absolument. Et surtout, il y a la rencontre en Angleterre fondamentale avec le théâtre shakespearien qui, d'une certaine manière, est sous-jacent aussi dans Sardanapale.
Je pense d'ailleurs, son premier tableau célèbre avant Sardanapale, avant Dante, la barque de Dante, c'est Hamlet.
C'est Hamlet, c'est son autoportrait qui est au musée de la Croix, et donc et l'autoportrait date de 1820-1821, qui est en Hamlet. Et c'est vrai que en y réfléchissant et en vous répondant. La différence, on parlait tout à l'heure de la différence entre les massacres de Kyo et le Sardanapale. Entre les deux, il y a l'Angleterre. Il va en Angleterre en 1825. Et je pense que le contact direct avec le théâtre anglais, notamment, et avec des collections nouvelles qu'il voit, notamment qu'il peut voir, renouvelle en partie aussi sa création. Et puis, bien sûr, le rapport à la couleur, c'est le Maroc. Et les objets marocains qu'il rapporte, et notamment les céramiques marocaines, sont pour lui autant de palettes.
En même temps, on voit bien que dans le tableau que nous regardons, le Sardanapal, il l'a déjà, cette couleur.
Il l'a déjà. Donc, il sait la trouver, voilà, comment dire.
Le Maroc est une preuve de ce qu'il cherche.
Le Maroc ou de ce qu'il a trouvé. Est un réconfort. Je pense que pour lui, le Maroc est un éblouissement, non pas parce que c'est une découverte, mais parce qu'il a la réassurance de ce qu'il a espéré.
C'est de voir les Grecs sur nature.
Voilà, les Grecs sur nature, l'Orient qu'il a espéré. Ça, je pense que chez Delacroix, vous savez, Delacroix, c'est un casanier. Donc, comme tous les casaniers, ils ne voyagent pas beaucoup. Ils ne voyagent qu'en Angleterre en 25 et au Maroc en 32. C'est tout. Le reste, voilà. Et je pense que si le Maroc lui a tellement plu, c'est qu'au Maroc, il a trouvé ce qu'il attendait. Il a trouvé ce qu'il avait imaginé. Donc, en fait, d'une certaine manière, il avait déjà tout ça en lui. Mais vous savez, parfois, on a tout ça en nous et on a besoin de le voir ailleurs pour que ça puisse exister. Donc, c'est vrai qu'il l'avait déjà en lui.
Ce Sardanapal, c'est pour vous le grand chef-d'œuvre de Delacroix ou il y en a tant ?
C'est un des grands chefs-d'œuvre de Delacroix. Moi, j'ai une affection certaine pour les peintures de Saint-Sulpice, que ce soit l'Héliodore ou le Jacob et l'Ange, qui sont quand même qui sont celles d'un homme plus âgé, mais d'un homme finalement qui a aussi qui a le sens de sa peinture, qui se souvient d'ailleurs du Sardanapal, entre autres. J'ai aussi, j'ai un faible terrible, mais pour quelque chose qui est peu vu, il faudrait qu'on écrive à l'Assemblée nationale, aux députés, qui est le décor de l'Assemblée nationale et qui va d'un côté d'Orphée jusqu'à Attila et qui est un chef-d'œuvre éblouissant.
Vous pouvez raconter, c'est un cycle.
C'est un cycle en fait pour la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Donc c'est une commande qu'il reçoit grâce au soutien de Thiers qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est une commande qu'il reçoit dans les années 1830 et qu'il ne finit que très tard en 1848. Je pense que les députés sont prêts de le tuer, de le faire tomber de son échafaudage. Et c'est un cycle dont il décide lui-même le programme et qui va de la naissance des arts avec Orphée polissant les Grecs jusqu'à la destruction de l'art de l'Italie par Attila. Donc on va de la Grèce archaïque jusqu'à la chute de Rome. Donc c'est tout un cycle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une sorte, dans l'ensemble, puisqu'après il y a cinq coupoles qui se déroulent entre les deux coups de four, et c'est une sorte en fait d'expression d'allégorie du bon gouvernement. On est dans la Chambre des députés, donc ça tombe bien, mais par l'expression, par les arts, par l'expression de différents arts, de la grammaire, de la poésie, de la musique. C'est extraordinaire d'avoir ce programme-là.
Est-ce que vous ne trouvez pas que cet artiste immense, qui a été très en avance, qui a lancé le romantisme français avec d'autres, mais il en a été la figure, au fond, son travail est resté très homogène d'un bout à l'autre. Il n'y a pas eu de rupture, me semble-t-il, dans l'expression plastique de son œuvre, qui est longue, pourtant.
C'est complexe.
40 ans, 45 ans de
travail. Il n'y a pas de rupture, et c'est vrai qu'il n'y a pas de rupture parce que c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la mémoire. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la remémoration. De ce point de vue-là, il s'exprime beaucoup là-dessus dans son journal et il a un sens du rapport au souvenir. Mais par contre, il y a une très grande diversité d'expression. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est à la fois peintre, mais qui est aussi lithographe. Et par la lithographie, il exprime des choses avec les blancs, les noirs, de façon différente. Il y a une très grande diversité de sujets. Il aborde à peu près tous les sujets. Mais il y a, c'est vrai, vous avez raison, un sens très fort de sa propre posture d'artiste. Et c'est quelqu'un, comme il le dit lui à propos de Rubens, qui a le grand talent de rester fidèle à l'idéal qu'il porte en lui. Donc ça, c'est quand même assez remarquable.
Merci beaucoup, Dominique de Fonréau.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé la mort de Sardanapale, peinture conservée au Louvre et réalisée par Eugène Delacroix en 1827. Et je vous signale d'ailleurs que sur ce grand thème de la Mésopotamie et de ce passé ancien qui a fasciné notamment Delacroix, une très belle exposition va ouvrir au Louvre-Lens le 2 novembre intitulée « L'histoire commence en Mésopotamie ». Nous étions pauvres Mésopotamie, quand je pense à elle, ces jours-ci, mais les larmes me viennent. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Dominique de Font-Réau, directrice du musée de la Croix, et vous accueillerez bientôt, Dominique, je crois, un nouvel accrochage sur George Sand.
Oui, à l'occasion d'une acquisition, de l'acquisition du portrait de George Sand par de la Croix, à l'occasion de la rencontre entre les deux artistes en 1834.
Une George Sand éplorée par la
disparition
de Musset.
C'est une George Sand éplorée en jeune homme. Musset, la rupture avec Musset la désole. Et c'est un accrochage de notre collection qui permettra de redécouvrir l'amitié entre Delacroix et Sand.
À partir du 26 septembre, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet Sylvia Favre, merci Sylvia. Lecture des textes Jean-Pierre Leroux. À la technique Claire Levasseur. Réalisation Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam qui l'a merveilleusement préparée.
Oh, to come for